14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
C'est le plus grand comédien qui puisse exister. Il a réussi depuis 10 ans ou 15 ans à déjouer la justice et puis tout ce qui est médecine. Il va prendre 30 ans, mais il y aura d'autres Muriel, d'autres Ingrid de nouveau. Ne croyez pas que ce sera le seul. Enfin, je le vois qu'on aura. Il y en a des milliers qui courent encore.
Bonjour, il y a 30 ans déjà, la France, abasourdie et horrifiée, découvrait les visages de Muriel et d'Ingrid, deux petites filles martyres de 10 ans. Sur la scène de crime, même le juge d'instruction n'avait pas pu retenir ses larmes devant une telle barbarie. Le public découvrait aussi un autre visage, celui de Christian Van Gelhoven, un père de famille, bien inséré dans la société, cadre supérieur dans une grande entreprise, un homme qui cachait un sombre passé criminel multi récidiviste, déjà auteur d'agressions sexuelles et de viols, un individu qui avait déjà connu la prison, habitué des psychiatres et des psychologues, 100 fois soigné, 100 fois reconnu non dangereux, en dépit de ses incessantes pulsions. L'affaire Van Gelhoven allait ainsi symboliser l'un des plus grands ratages de l'histoire judiciaire, l'impuissance de mettre hors d'état de nuire un monstre et d'empêcher la mort épouvantable de deux petites filles. 30 ans après, la justice a-t-elle tiré la leçon de l'affaire Van Gelhoven ? Question centrale posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Van Gelhoven, le nom de ce pédophile va apparaître à l'automne 1991, derrière la disparition de deux petites filles à Elne, une petite ville paisible des Pyrénées-Orientales. Ce samedi 19 octobre 1991, une petite blonde, Ingrid Van de Portal, et une petite brune, Muriel Sanchez, jouent dans le jardin d'une maison dans un lotissement d'Elne, au pied de la chaîne des Pyrénées. Les deux cousines sont âgées de 10 ans. Vers 16h, elles préviennent qu'elles vont acheter des bonbons au tabac du coin. C'est à deux pas de la maison, elles ne risquent rien. 20 minutes plus tard, les cousines ne sont pas revenues. La mère d'Ingrid, Chantal Van de Portal, fait le tour du lotissement en voiture, sonne à toutes les portes, se renseigne auprès des commerçants. Les parents des deux fillettes sont gagnés par l'inquiétude, puis la panique. La gendarmerie est prévenue. La double disparition est tout de suite prise au sérieux. Dans la soirée et le lendemain, des barrages sont installés sur les routes, les points d'eau sont sondés, les bois alentours explorés. 300 gendarmes et le double de volontaires, tout un village mobilisé pour participer aux battues. Les parents des fillettes arpentent le terrain et ne dorment plus. Manuel Sanchez, le papa de Muriel, dira avoir passé 90 heures debout sans fermer l'œil. Aucune trace d'Ingrid et Muriel, mais un témoignage précieux, celui d'une habitante d'Elne, André Botta, se souvient d'avoir vu samedi après 16 heures les deux cousines près d'un rond-point. Elle tenait des sachets de bonbons et rigolait. À l'autre bout du rond-point, il y avait un homme debout près d'une voiture blanche. Il paraissait attendre quelqu'un, il a baissé la tête quand André Botta est passé devant lui. Les gendarmes disposent d'un signalement, celui d'un homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne, plutôt corpulent, le crâne dégarni. Ils recherchent également une voiture blanche, peut-être de type commercial. L'enlèvement ne fait aucun doute et les jours passent. À la télé, les parents d'Ingrid et Muriel lancent un appel aux ravisseurs. « Rendez les fillettes », implorent-ils. « On ne portera pas plainte contre vous, on ne vous recherchera pas ». 10 jours de silence, pas d'indice, pas de nouvelles. Jusqu'à ce coup de fil de la police belge. Elle a été alertée qu'un homme connu pour pédophilie, un néerlandais, était dans la région où s'est déroulée la disparition. C'est un des proches de cet individu qui a donné l'information. Cet homme s'appelle Christian Van Gelhoven, 46 ans. Sa photo ressemble à celle de l'homme du rond-point. Il faut le retrouver. Il est établi que 3 jours après la disparition, Van Gelhoven a tenté de se suicider dans une chambre d'hôtel à Lourdes. Il voulait se recueillir devant la statue de Bernadette Soubirou, mais le sanctuaire était fermé. L'homme a essayé de se pendre, puis a pris des médicaments. Il s'était auparavant confessé. Le juge Claude Gauze téléphone au prêtre qui lui oppose le secret de la confession, mais au fil de la conversation, le magistrat comprend que Van Gelhoven est le ravisseur et sans doute le meurtrier de Ingrid et Muriel. 1er novembre 1991, Christian Vangeloven est entendu à Saint-Dizier, en Haute-Marne, la ville où il vit avec son épouse et leurs deux enfants. Après sa tentative de suicide, il a été transféré ici, dans un hôpital psychiatrique. Il nie, affirme n'être jamais allé à Elne. Il n'a jamais abordé les deux fillettes. Puis tout se fissure. Il se dit malade, a besoin de soins. Après 12 heures de garde à vue, il craque. Il a enlevé Muriel et Ingrid, les a tués dans un chemin forestier. La suite tient de l'épouvante. Vangeloven est ramené dans la région. Il conduit les enquêteurs au lac de Salagou. On y retrouve un sac contenant les habits des fillettes. Le lendemain, un dimanche, il emmène les gendarmes jusque sur le plateau du Larzac, près du cirque de Navacelle. Il montre du doigt une faille dans la roche, un puits de 40 mètres. Au fond, les corps dénudés d'Ingrid et Muriel. Vangeloven, se présentant comme un fervent catholique, dira qu'elle méritait mieux que cette sépulture. L'enquête va présenter un profil du bourreau effrayant, un homme archi-connu de la justice et des psychiatres. Le 5 novembre 1991, 4 jours après les aveux de Vangeloven, le village d'Elne célèbre les obsèques de Muriel et d'Ingrid, deux petites filles de 10 ans mortes au terme de souffrances inhumaines. Tout le monde est partagé entre colère, rage et incompréhension, des sentiments qui vont croître à mesure que le voile se lève sur le meurtrier. Vangeloven a beau avoir obtenu l'effacement du bulletin 2 de son casier judiciaire, celui qu'on peut être amené à présenter, il n'est pas un inconnu de la justice. Les affaires numérotées 0127, 1130 et 1128, Virginie, Catherine et Guylaine, entre 8 et 10 ans, y restent répertoriées. En 1983, Christian Vangeloven, alors âgé de 38 ans, marié et jeune père d'un garçon et d'une fille, est interpellé à Orléans, la ville où il vit et où il travaille. Il a pour habitude d'attendre des petites filles devant leur école, de les faire monter dans sa voiture, de les entraîner en pleine journée chez lui alors qu'il n'y a personne, de se livrer dans sa chambre à des attouchements et même à des viols. Il ramène ensuite ses victimes traumatisées et déboussolées à leur point de départ. Le 23 août 1984, il comparaît en correctionnel. Il explique être repentant, prêt à se faire soigner pour sa pédophilie qu'il désigne comme une maladie. « Si un salaud avait fait ça à ma fille, je l'aurais tué », dit-il. Il écope de 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis, obligation de soins. Il reste un peu moins de 14 mois derrière les barreaux. Les Vangeloven s'installent loin d'Orléans, à Saint-Dizier. Ils dirigent ici l'import-export d'une société d'exploitation de bois. Poste bien payé, Vangeloven fait l'unanimité auprès de ses collègues, toujours très attentionnés et souriants. Il voyage beaucoup. Pour pouvoir obtenir des visas, il demande alors l'effacement de sa condamnation au casier judiciaire. Il dit se soigner, avoir pris la dimension de ses erreurs. Les médecins n'ont pas détecté de dangerosité particulière. Son épouse, Martine, est même là pour le soutenir. Le tribunal accepte, contre l'avis du parquet, qui s'interroge sur une telle rédemption. Le commercial passe quelques mois aux États-Unis avec son épouse pour y monter une filiale, puis en solo se rend fréquemment en Asie, Manille, Bangkok, pays qui ferme alors les yeux sur le tourisme sexuel et la pédophilie. À son médecin, il confie avoir toujours un petit problème avec les enfants. Mais le docteur ne s'inquiète pas. Vangeloven dit être suivi par un psychiatre. Le samedi 5 juin 90, Christian Vangeloven s'exhibe sur les bords de la Marne, devant Agnès et Karine. Quelques jours plus tard, une des petites filles le reconnaît au centre-ville. Il est placé en garde à vue. Il se dit une nouvelle fois malade. 17 décembre 90, Christian Vangeloven est discrètement jugé en correctionnel pour exhibitionnisme à Saint-Dizier. Il fait le signe de croix en entrant dans la salle d'audience. Procès expédié en une demi-heure. Le prévenu n'est pas considéré comme dangereux. Il est condamné à une peine de 2 mois avec sursis et une amende. Le jugement est assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans et l'obligation de se faire soigner. Les parents des fillettes n'acceptent pas cette condamnation des plus légères et cette exonération de responsabilité. Aucune ligne n'est publiée dans la presse locale. L'épouse a fait pression pour faire interdire un article. La mère d'Agnès, furieuse, va donc dénoncer l'exhibitionniste auprès de son employeur. Christian Vangeloven est licencié et va sans doute être contraint d'aller faire sa vie ailleurs. On apprendra plus tard que dans sa jeunesse, Vangeloven avait violé à répétition sa demi-sœur Isabelle alors qu'elle avait entre 5 et 12 ans, des faits que la justice a déclarés prescrit. Christian Van Geloven passe ainsi entre les gouttes, esquive la justice au point de ne jamais rendre des comptes. Il ne cesse de réclamer des soins et de l'aide, mais semble passer maître dans l'art de détourner les soupçons des juges et des psychiatres. Octobre 1991, 10 mois après sa condamnation pour exhibitionnisme devant deux petites filles à Saint-Dizier, suivi de son licenciement, Christian Van Geloven est désœuvré et livré à lui-même. Le 7 octobre, alors qu'il est en pleine période de mise à l'épreuve après son dernier jugement, il suit à nouveau la petite Agnès sur les bords de Marne. Celle-ci s'enfuit, rentre chez elle, la police est prévenue. Le commissaire de Saint-Dizier tente de minimiser les faits. Il s'agit tout au plus, selon lui, d'une rencontre fortuite. Il indique à la famille que M. Van Geloven n'est pas détenu et est libre d'aller et venir. La mère d'Agnès est surprise, elle ne veut pas en rester là. Elle décide d'alerter le tribunal pour enfants. La juge d'application des peines, Maria Pia Monet, l'écoute attentivement. Le 11 octobre, Christian Van Geloven est convoqué. Il nie avoir suivi ou observé la petite Agnès. La juge doute de sa version, elle lui conseille de quitter la région. Christian Van Geloven part pour Paris où son fils dispose d'un studio. Il est accompagné de son épouse. Il décide ensuite de se rendre seul dans le sud de la France, à la région de Toulouse, pour répondre à des offres d'emploi. Des amis lui ont prêté un appartement à Collioure, aux stations balnéaires des Pyrénées-Orientales. Il prend donc la route, fait un crochet par Orléans, ville où il avait été emprisonné en 1984 après son premier procès, puis rejoint Collioure aux alentours du 17 octobre. Il n'a alors aucun rendez-vous professionnel. Il se rend à la piscine municipale, observe les petites filles qui s'y trouvent, mais elles sont surveillées. Il ne peut pas passer à l'action. Le samedi 19 octobre, c'est par hasard qu'il prend la direction de la commune d'Elne, là où il va apercevoir, près d'un rond-point, les silhouettes de Muriel et d'Ingrid. Christian Van Geloven, pédophile et meurtrier de deux petites filles, va comparaître une troisième fois devant la justice, une cour d'assises cette fois. Il risque la prison à perpétuité. Ce lundi 21 mars 1994, Christian Van Geloven, 49 ans, pénètre sous les huées de la foule dans le palais de justice de Perpignan. Les familles de Ingrid Van de Portal et de Muriel Sanchez ont obtenu l'autorisation de pouvoir s'asseoir face à l'accusé afin de pouvoir scruter, dévisager et peut-être essayer de décrypter l'homme qui a brisé leur vie. Van Geloven, crâne chauve, lunettes, visage épais, à le regard fuyant. Il fait le signe de croix et baisse fréquemment la tête comme s'il ne voulait pas être reconnu. Il déclare d'emblée qu'il est malade et qu'il faut qu'on le soigne, mais les experts le considèrent conscient et responsable de ses actes. Malgré une autopsie accablante, Van Geloven reconnaît les meurtres, mais nie les viols. Pour le reste, ses réponses sont confuses. « Je ne sais pas, je ne sais plus », répond-il. « Pourquoi avoir tué ?» demande le président. « Je ne sais pas, une surenchère de pulsion. Je suis comme le lait sur le feu. » L'avocat des familles Sanchez et Van de Portal, maître Étienne Nicolo, indique que chez Van Geloven, le mal est naturel. Il le décrit comme un manipulateur. L'avocate de l'accusé, maître Martine Figueroa, indique « On ne choisit pas d'être pervers. Il faut admettre que cet homme-là n'est pas comme nous. A-t-on envie de le regarder ? Non ? Il nous dérange. » L'avocat général s'adresse à Van Geloven « Même si vous exprimiez des regrets, nous ne vous croirions pas. » Le 25 mars, après 4 jours d'audience et seulement 2 heures de délibéré, Christian Van Geloven est condamné à la perpétuité, avec une peine de 30 ans de sûreté. Même l'un des avocats de Van Geloven va évoquer l'extrême dangerosité de cet homme et l'impossibilité de le laisser en liberté. Christian Van Geloven va purger sa longue peine en sachant qu'il ne sortira sans doute jamais de prison. Le 6 août 2011, l'administration pénitentiaire annonce le décès de Christian Van Geloven à la prison d'Ensisheim, en Alsace, où il était incarcéré. Le pédophile tueur est mort à 66 ans des suites d'un cancer. Lors de sa condamnation, sa demi-sœur Isabelle s'était réjouie de cette lourde peine, estimant que cet homme qu'il avait violé durant de longues années lui avait volé son existence. À l'annonce du décès, les familles de Muriel et d'Ingrid font alors part de leur soulagement, mais indiquent qu'elles ne seront sans doute jamais apaisées. « On n'arrive même pas à savoir comment on a fait pour survivre », témoignent Chantal et Gilles Van de Portal, les parents d'Ingrid. Manuel Sanchez, le papa de Muriel, s'interroge. « Les petites sont parties, l'assassin est mort, La douleur est insupportable et intacte. Même avec le temps, il nous a tués tous, à moitié. L'avocate de Christian Van Geloven, maître Martin Figueroa, estime que son client ne serait jamais sorti de prison. Il avait un tableau psychiatrique effrayant, dit-elle. La famille du détenu ne le visitait plus à la centrale d'Ensisheim. Des proches qui n'ont pas réclamé sa dépouille. Christian Van Geloven a été enterré dans une fosse commune.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.